Jean Lorédan, Tonton. Vous l'avez peut-être connu à Locrouan, chez la mère Lestoum. Vous savez bien, l'hôtel à la mère Lestoum, sur la place, auprès de l'église, la maison qui a un cadran solaire et une petite tourelle à toit pointu en poivrière. Tonton, notre oncle, comme on l'appelait, l'oncle à tout le monde. Augustin Lebris de son vrai nom. Un ancien agent voyait. Il prenait ses repas dans la salle commune, en bas, avec Madame Lestoum et son fils, en compagnie des voyageurs de commerce, quand il en passait. Et au dessert, il se plaisait à faire des tours avec des rondes serviettes, avec son couteau, avec des biscuits qu'il lançait en l'air adroitement et qui retombaient dans son verre. Ce qu'il en avalait de ces biscuits, tout le monde s'en amusait. Sauf la mère Lestoum, bien entendu, que ses jeux d'adresse appauvrissaient, dont la pâtisserie s'engloutissait dans ce gros homme. Un petit, ventru, rondelet, sans un poil de barbe, presque sans cheveux, la nuque et les tempes garnies seulement d'une maigre toison blanche, les pommettes rouges et veinées de bleu. En toute saison, il portait un chapeau de paille, muni d'une bride, en prévision des bourrasques. Il était vêtu d'un veston graisseux verdi par les averses. Et son pantalon, collant aux cuisses et remontant, découvrait les tiges de ses bottes. Mais ce qui surtout le faisait remarquer tout de suite et reconnaître de loin, c'était ses bras, qu'il avait très courts, étonnamment, et qu'il tenait d'ordinaire, un peu loin de son corps, comme s'il eût été serré par les entournures de sa veste. À peine le bout de ses doigts dépassait-il ses hanches, et, lorsqu'il devait fouiller dans les poches de ses choses, il était obligé de se pencher d'un côté, et cela visiblement le gênait. Pauvre tonton, un homme si tranquille, si débonnaire, malgré son humeur taciturne, et l'aspect renfrogné qu'il prenait parfois quand des gens l'agaçaient, lui posait des questions insidieuses ou indiscrètes, lui faisait des farces. Ah, les mauvais plaisants, toujours à taquiner, molester le voisin. La race des mauvais plaisants, une peste, une engeance abominable. Pauvre tonton, qui eût prévu qu'il ferait un jour tant de bruit et causerait tant d'émotions. Un coup de folie, pour sûr. Il avait perdu la tête, ce pauvre homme. La chose, pourtant, n'en valait guère la peine. Une personne raisonnable ne se fût pas désespérée pour si peu, et il avait en somme tout ce qu'il faut pour vivre sans souci, heureux autant qu'on peut l'être en ce bas monde. Quelque argent, une petite retraite, la liberté. Un ancien agent voyait, comme je vous le disais, bien connu dans le pays. Ah, il en avait fait des voyages, celui-là, par les routes du Finistère, avec ses grosses bottes et son caban ciré, par tous les temps, sous le soleil, sous la neige, sous la pluie, surtout la pluie têtue de la Bretagne, au milieu des rafales et des brumes. Il en avait compté des tas de cailloux, surveillé et gourmandé des cantonniers, bu des chopines de cidre et des amers picons et des bitères. Ce brave tonton. Puis, fatigué de courir, de s'éreinter, sinon de boire, d'endurer le froid, le chaud, l'ennui par les grandes routes nationales et départementales, par les chemins de grandes et de petites communications, n'ayant point d'attache nulle part, point d'amis, point de famille. Devenu vieux, il s'était retiré dans ce pays de Locrouan qui lui plaisait, en cet hôtel Lestoum qu'il connaissait de longue date. Et il vivait là. Il occupait au premier étage de l'hôtel une chambre dont les fenêtres s'ouvraient sur la place. Et ainsi, il apercevait les gens qui vont à l'église, qui sortent des boutiques et des débits. Les femmes qui puisent de l'eau à la fontaine savaient toujours toutes les nouvelles. Il se montrait d'ailleurs rarement médisant. Ne demandait qu'à vivre tranquille, et se donnait du bien-être autant qu'il était en son pouvoir. Chacun s'arrange comme il l'entend, n'est-il pas vrai? Et pour le mieux, c'est au naturel. » Il se levait fort tard, vers 11 heures. Prenait au lit son premier repas, une tasse de café et des tartines. Descendait enfin, un peu avant l'heure du grand déjeuner. S'asseyait sur le banc devant la porte lorsque le temps le permettait. Et buvait son bitter, en fumant sa pipe, en plein air. Si vous lui causiez, il vous répondait poliment par quelques paroles, s'entretenait surtout des variations atmosphériques, savait consulter un baromètre et prédisait avec assurance le froid, l'orage, la neige ou les tempêtes, suivant l'aspect du ciel ou la nature des vents. Fréquemment, ses pronostics se réalisaient et il en concevait quelque orgueil. Il avait tant couru, tant voyagé, tant vu, battu tant de graviers sous ses gros souliers à clous, dormi tant de sommes le long des fossés, dans les calmes solitudes des bois. Et quand on l'appelait, quand Madame Le Stum, au seuil de la salle basse, criait « Eh bien, tonton, nous y sommes, allons à table !» Il se levait, sans trop se faire prier, vidait son verre, secouait les cendres de sa pipe. Toujours fidèle au poste, l'un des premiers assis devant la soupe fumante, les poings sur la nappe et la serviette au cou, pour se préserver des taches. Il avait bon appétit, mangeait de tout, se montrait friand tout particulièrement de ragoûts aux oignons et des cèpes qu'il cueillait lui-même au cours de ses petites promenades dans les forêts des environs, et dont il rapportait de pleines paneries. Il buvait bien aussi, s'attardait à l'heure du café et, volontiers, se faisait régaler de petits verres. Puis, il s'asseyait de nouveau sur son banc devant la porte, ou bien s'en allait flâner par les chemins autour du village, regardait les lièvres qui détalent à travers champs, par les landes, connaissait des compagnies de perdrix et les indiquait aux amateurs, faisait sa chasse à lui, plus tranquille et moins fatigante, la chasse aux champignons, se taillait de grosses cannes dans les bois, et vers 3 heures d'ordinaire, 3 heures, 3 heures et demie, il rentrait, remontait à sa chambre et se recouchait, demeurait entre ses draps paisiblement jusqu'au dîner. Puis, chaque soir, à 9 heures, il demandait son bougeoir et regagnait son lit. Ainsi passait la vie, bien ordonnée, monotone un peu, mais telle qu'il la désirait. Agréable, en somme. Une existence de rentier. Le samedi, il se faisait raser par Yves Gouvello, le cabaretier qui est à l'entrée du village sur la route de Douarnenez. Le dimanche, il allait à la grand-messe. Le jeudi, il recevait son journal, le phare de Quimper. Et pourtant, il n'était pas heureux. Non. Qui de nous est jamais content? Toujours quelque chose nous manque. Faute de chagrin véritable, nous nous en créons de factices, d'imaginaires. Lui se voyait entouré d'ennemis, d'envieux, et s'en plaignait sans cesse. Une idée fixe qu'il avait, comme ça. La manie de la persécution, disait M. Clos-Madec, le nouvel agent voyé. On se moquait de lui, déclarait-il, et on le détestait. On le jalousait. On eût voulu le voir malheureux, le voir mort. Des gens, quand il passait, se retournaient, souriaient. Des enfants lui adressaient des pieds de nez. Du reste, les imprudents, qui se permettaient ces plaisanteries, s'en trouvaient mal parfois, car il avait au bout de ses petits bras des mains un peu lourdes, le brave tonton. Et volontiers, il allongeait une gifle à l'occasion. Il ne fallait pas le braver de trop près. Et puis, un autre ennui depuis quelques années s'ajoutait à ses ennuis, disait-il. Le sommeil le fuyait. Il avait si bien dormi autrefois. Et voilà qu'à présent, sans cesse, il s'éveillait, la nuit, le jour. Ah, c'est bien fatigant. Il passait des nuits abominables. C'est votre araignée qui vous travaille, remarquait un voyageur facétieux. Il haussait les épaules, se renfrognait, ne parlait plus. Et des gens, en effet, le plaisantaient, lui faisaient des farces. Des polissons lui collaient des papiers dans le dos, soufflaient dans des trompettes tout à coup à ses oreilles pour le faire sursauter, s'approchaient de lui bien doucement quand il dormait parfois à la lisière de quelque bois, au bord d'un chemin, au cours de ses promenades, et lui enlevaient son chapeau ou sa canne. Et des grands aussi s'en mêlaient. Des commis voyageurs le blaguaient sur ses prévenances à l'égard de Marianne, la bonne de l'hôtel. Ah, un homme rudement galant, ce tonton. Des gars, lui ayant proposé quelques parties de piquet ou de manille, trichaient, lui volaient son argent. Il se mettait en colère, jetait les cartes et se levait. Puis, on lui déroba sa pipe. Et voilà qu'un beau jour, on lui cacha son journal. Il ne le retrouvait plus dans sa poche, ce journal, son journal, le phare de Quimper. Cette gazette qu'il lisait d'un bout à l'autre, patiemment, par petites tranches, depuis le titre jusqu'à la signature de l'imprimeur, et qui lui fournissait les sujets ordinaires de ses conversations. Son journal, l'occupation et le travail de sa semaine, la nourriture de son intelligence. On le lui avait pris. Il n'était plus là, dans la poche droite de son veston. Il ne l'avait pas laissé, cependant, dans sa chambre, sur sa table. Il chercha vainement. Et cela recommença, 8 jours plus tard. Cela recommença presque chaque semaine. Ah, si jamais il parvenait à le connaître, le mauvais plaisant, le voleur. Pourtant, ce ne pouvait pas être François Lustum, ni la mère Lustum, ni Marianne. Non, Marianne se permettait bien de rire, de blaguer à l'occasion, mais n'eût point été capable d'une chose semblable, lui prendre son journal. Il l'enferma dans un des tiroirs de sa commode. Le journal encore disparut. Il le cacha derrière sa glace, sous le tapis de sa table, dans une vieille malle. Il mit dans sa poche la clé de sa chambre. Mais il fallait bien la donner, cette clé, pour confier son ménage. Et toujours, le phare s'envolait. Enfin, il se dit, « Je ne le quitterai plus. » Et il s'efforçait de ne l'oublier nulle part, de le tenir sur lui, constamment. Dès qu'il le recevait, il le glissait dans la poche intérieure de sa veste. Le soir, il prit l'habitude de le placer sous son oreiller. Et même en dormant, en ronflant, durant son paisible sommeil, beaucoup moins troublé qu'il ne le disait, il montait la garde. L'idée était bonne. Le phare cessa de vagabonder, de s'éclipser. Le phare, assagi de sa douce et puissante lumière, l'éclaira comme autrefois. Ce fut un mois à peu près tranquille. Chaque jeudi, régulièrement, le phare, sous sa jolie bande rose, portant en beau caractère d'imprimerie le nom de son abonné, arrivait sur le coup de midi. Augustin Lebris l'attendait, faisant les 100 pas devant la porte, ou bien buvant son apéritif dans la première salle, quand la pluie ne permettait pas qu'on s'attablât dehors. Et Victor, le facteur enfin, se montrait à l'entrée du chemin de Douarnenez, entre la maison du forgeron et le débit de Gouvello, avec son chapeau de paille, son bâton et sa grande sacoche. Le facteur s'avançait, traversait la place, entrait. « Salut tout le monde. Ah, Augustin Lebris, voilà pour vous. » Le phare. Jamais autre chose, naturellement, car il ne recevait point de lettres, n'ayant nulle connaissance qui s'occupait de lui. Nul ami. Le phare. Il le saisissait, faisait sauter la bande, le dépliait, le repliait tout aussitôt, le glissait dans sa poche, précieusement. il n'aimait point à lire en plein air ni en public. Le bruit qu'on faisait autour de lui, les conversations des gens, même l'aboiement d'un chien, la chanson d'un oiseau, le troublaient, l'empêchaient de comprendre. Pour se livrer à la lecture, que diable, il faut avoir ses aises, n'être point étourdi, assourdi par ses rires, ses voix, par le potin de tous ces imbéciles. Mais dans sa chambre, seul, chez lui, comme il était content, se plongeait, s'absorbait dans ses articles, en ses chroniques, départementales et autres, se perdait et s'embrouillait parmi ses phrases compliquées, difficiles à démêler. Parfois, il fallait bien y reprendre deux ou trois fois pour en saisir exactement le sens et la portée. Et cela le fatiguait, le congestionnait. Après les repas, surtout, le sang monte à la tête presque tout de suite dès qu'on s'applique. Et il refermait le journal, l'abandonnait sur ses genoux, sentait flotter de plus en plus ses pensées, s'endormait. Mais il avait toute sa semaine pour le lire. Et le mercredi, presque toujours, il était achevé ce journal. Il avait tout lu, les annonces, la bourse, les marchés, les foires. Et voilà-t-il pas qu'un jeudi, Victor, ayant avalé sa goutte au bord du comptoir comme d'ordinaire, annonça qu'il n'avait pas le phare. Non, il ne l'avait pas trouvé à la poste. Comment cela se faisait-il? Pourtant, il arrivait régulièrement d'habitude. L'adresse était bien mise, l'abonnement aussi avait été payé le 15 décembre dernier. Victor lui-même en avait rapporté la quittance. Impatiemment, il attendit la semaine suivante. Oh oui, impatiemment. Et le jeudi vint. Le phare ne vint pas. Non, le phare ne venait plus. Peut-être vous devriez écrire, conseillait Madame Le Stum. C'était aussi l'avis de Marianne. Mais il manquait de courage. Écrire, c'est si embêtant. On a dû vous rayer, insinua Gaston Morisset, le voyageur de la maison Bidurel et compagnie de Lorient. Un gros idiot, toujours en train de plaisanter, de dire des bêtises, des riens qui faisaient rire les autres, mais qui étaient vraiment stupides. Comment me rayer? Ben oui, pourquoi pas? Il vit bien qu'on se moquait de lui. Il fronça les sourcils et tourna le dos à cet animal. Se replongea dans la confection de sa vinaigrette. Et les jours, les semaines passaient, mornes. Le phare ne paraissait plus. Victor ne l'avait plus dans sa sacoche. Jamais, ou du moins, il n'avait que celui de M. Closemadec et celui de Maître Aubinet, le notaire. Augustin devenait sombre, taciturne de plus en plus. À peine répondait-il aux gens, au bonjour que parfois des passants lui adressaient. Assis devant la porte, sur le banc, il buvait son bitère ou son amer picon silencieusement. On eût dit qu'il ne voyait, ne reconnaissait personne. Par les routes autour du village, il s'en allait baissant la tête, brandissant son bâton, grommelant entre ses dents, quelquefois des paroles incohérentes qu'on ne comprenait pas. Et il rudoyait Marianne, même Madame Le Stum, finit par ne plus vouloir se lever le soir à l'heure du dîner. « Où est donc tonton ?» demandaient quelques représentants de commerce. « Il dort. »« Ah, il est malade ?»« Non, il ne veut pas descendre. »« On s'esclaffait, crie tonton, on va. » Madame Le Stum, par bonté, montait, frappait à la porte. « Allons, Augustin, faudrait vous lever, voyons. Ça vous fera du mal. » Il ne répondait pas. Tournait le dos, se renfonçait la tête dans l'oreiller. Ses idées fixes, qui le poursuivaient parbleu, toujours ses idées fixes. Ses ennemis, en avait-il des ennemis? On le jalousait, on se moquait de lui. On était content de le savoir malheureux, malade. Et l'autre matin, comme elle venait de l'appeler pour le déjeuner, Cette brave Madame Le Stum fut bien surprise. Point de réponse à ses appels réitérés. Aucun bruit. La chambre morne. Et elle entra, ne le vit point dans son fauteuil. « Tonton, tonton !» Et elle poussa un cri. Il était là, derrière la porte, pendu à un clou, près de son vieux caban ciré et de sa veste, en chemise. La figure bouffie, blanche. Il tirait la langue. Il était mort. Pauvre tonton. Et tout cela, à cause de ses mauvais plaisants, de ces farceurs abominables, stupides. Oui, on le sait aujourd'hui pourquoi ce journal ne lui parvenait plus, n'était jamais dans la sacoche aux lettres. C'était le gros Morisset, cet imbécile, qui, pour jouer un bon tour, avait écrit sur une bande du journal, ramassée dans l'auberge, ces mots. Changement d'adresse. Envoyé désormais à M. Augustin Lebris, hôtel du Lion d'Or à Quimperlé. À Quimperlé. Ah, une engeance exécrable, une peste. Ce brave tonton, un homme qui, cependant, avait tout ce qu'il faut pour être heureux. De l'argent, une retraite, l'indépendance, la considération. C'est ce que disait justement ce matin le phare de Quimper. Pauvre tonton.